Le journal Sophie Delpont. Bonjour Sophie.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Stop ou encore, les Gilets jaunes appellent à un acte 8 aujourd'hui partout en France avec une radicalisation qui s'installe selon le gouvernement. Analyse avec Rosalie Lafarge dès le début de ce journal. Et puis l'invité des matins du samedi est Pierre-Rosan Vallon.
Historien, professeur au Collège de France, auteur de Notre histoire intellectuelle et politique paru en à l'automne 2018, il viendra nous parler de notre moment historico-politique en France. En ces temps de rentrée politique, fin d'année difficile pour le pouvoir, début d'année en chantier, nous demanderons son regard à l'historien Pierre-Rosan Vallon.
Alors que le géant du net Google aurait transféré aux Bermudes près de 20 milliards d'euros pour échapper à l'impôt, selon un quotidien spécialisé dans la finance, nous lui poserons la question à Pierre-Rosan Vallon sur la taxe GAFA mise en place en France, mais refusée par l'Union européenne.
Dans ce journal, nous irons aussi en Tunisie, Sophie. 5 ans après le lancement des travaux de l'instance chargée de mener la transition démocratique, les résultats se font attendre.
Alors qu'en Égypte, autre pays emblématique des printemps arabes, le président Al-Sisi tente de censurer son interview sur la chaîne américaine CBS, sans succès. Les Gilets jaunes appellent à un acte 8, aujourd'hui 8e samedi de mobilisation depuis le lancement du mouvement dans les rues et sur les ronds-points le 17 novembre dernier. Les Gilets jaunes se donnent principalement rendez-vous sur des places symboliques des grandes villes. À Paris, une des manifestations partira place de l'Hôtel de Ville avant de rejoindre l'Assemblée nationale. Y a-t-il un essoufflement du mouvement ou bien est-ce un retour en force en ce début 2019? À quoi peut-on s'attendre, Rosalie Lafarge?
Les lendemains de fête, la digestion est souvent difficile. Là, on frôle quasiment l'indigestion pour une partie des Gilets jaunes. Les vœux du président et sa foule haineuse, ça ne passe pas. Se faire qualifier d'agitateurs qui veulent l'insurrection par le porte-parole du gouvernement hier, ça ne passe pas. Mais s'il y a bien un événement de la semaine qui ne passe pas, c'est la deuxième arrestation d'Éric Drouet, l'un des visages de la contestation.
Les gens, ils sont plus motivés que jamais. Ils se sont passés le message et ils seront présents.
Farouk Largot est l'un des proches d'Éric Drouet.
Ce qui s'est passé, les gens, ils ont bien vu que c'était inadmissible. Le président a parlé de fermeté. Je me demande comment ils vont parler de fermeté avec des millions de personnes dans les rues, quoi.
La colère va se transformer en haine si vous continuez à considérer le petit peuple comme des gueux, prévient le groupe d'Éric Drouet dans une lettre ouverte au président. Elle sera d'ailleurs lue cet après-midi à Paris. D'autres n'ont pas peur d'aller plus loin. Maxime Nicole, figure controversée mais très suivie des Gilets jaunes, l'assure dans une vidéo publiée sur Internet. Certains sont prêts à frapper très très fort.
Il y a des gens qui se préparent à plus du tout être pacifiques. Beaucoup de gens aujourd'hui dans ce mouvement, pas tous, mais beaucoup de gens sont prêts à perdre la vie pour que notre futur soit meilleur. Mais ce que je peux vous dire, messieurs du gouvernement, s'il y en a qui me regardent, si la question vous la posez, est-ce que des gens préparent un soulèvement national et faire un appel aux armes, puisque dans notre Marseillaise, il y a aux armes citoyens, formez vos bataillons, et ben oui, il y a des gens là, actuellement, sur le territoire, qui préparent ça.
Mais si le ton se durcit chez certains gilets jaunes, il se durcit aussi côté exécutif, ferme et autoritaire. Le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, prévient ceux qu'il appelle les plus radicalisés. Cela, qu'il soit certain d'une chose, force restera à la loi.
Rosalie Lafarge du service politique de France Culture. Beaucoup de ces leaders de gilets jaunes refusent le débat national, dénoncent une répression des pouvoirs publics et refusent les mesurettes, comme ils disent, présentées selon eux par Emmanuel Macron, à qui ils demandent d'être reçus directement à l'Élysée, Élodie Rabel.
Surtout à Paris où 2 rassemblements sont déclarés à la préfecture, l'un organisé par la France en colère qui partira de l'Hôtel de Ville à 14h pour aller à l'Assemblée nationale, l'autre donne rendez-vous sur les Champs-Élysées direction la place de la Bourse. En région, ce sont les places symboliques des grandes villes qui sont le plus concernées par cet acte 8, à Lyon, Rouen, Bordeaux ou encore Toulouse. Un 3e rendez-vous est aussi annoncé sur Facebook mais pas en préfecture. Fait notable, les différents organisateurs se sont concertés afin de regrouper le plus de monde possible. Le lieu de rendez-vous est tenu secret jusqu'à 9h du matin, vraisemblablement dans l'ouest parisien, selon la notice qu'ils font circuler sur les différents événements. En face, les autorités ont haussé le ton ces derniers jours, conformément à la note du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner au préfet, qui veut libérer les ronds-points et autres points de blocage de l'Hexagone. Quant au dispositif policier déployé, aucun chiffre n'est annoncé. Seule réponse donnée, il sera adapté et adaptable. En clair, le même que les samedis précédents. C'est donc un double test qui se prépare pour ce premier samedi de mobilisation de 2019. Un test de mobilisation pour les Gilets jaunes, un test d'autorité pour le gouvernement.
Élodie Rabel. Le mouvement des Gilets jaunes porte en partie sur le thème de l'injustice fiscale, alors que le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a confirmé que la taxe sur les géants du net, les GAFA, serait bien appliquée en France et doit l'être depuis ce mardi 1er janvier. Pierre Rosanvallon, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes professeur au Collège de France, l'invité actu des matins du samedi. La France a mis en place cette mesure seule, cette taxe GAFA, sans parvenir à convaincre la totalité des États membres de l'Union européenne. Cette mesure mise en place par la France seule, est-ce que c'est une manière quelque part de renforcer sa crédibilité, son leadership sur les questions de progressistes et de montrer que l'Europe peut, en gros, que la France a une utilité dans cette Europe qui essaie de lutter contre les paradis fiscaux, ou bien est-ce que c'est davantage un exemple d'impuissance politique ?
En tout cas, c'est ce qui montre la volonté du gouvernement d'avancer sur ce dossier, et on peut dire tout simplement que c'est la façon dont l'Europe avance. L'Europe, elle avance par les pas en avant de certains et par les négociations plus lentes. Évidemment, l'Europe seule est plus rapide que l'Europe à tous. Mais c'est la dialectique des deux qui fait marcher les choses, et on ne peut pas penser que c'est seulement en marchant seul que l'on peut faire avancer les choses, et qu'il faut trouver le bon rapport entre un petit peu d'avance et se soumettre ses idées en avance à la discussion collective.
Et ça, justement, une taxe sur les GAFA, les géants du web qui échappent à l'impôt, ce serait un message fort à quelques mois des élections européennes dans lesquelles, justement, on a ces questions sur l'Europe est-elle utile et sur aussi cette montée des populismes.
Que l'Europe soit utile, ça c'est absolument évident, parce que quantité de problèmes que nous avons à gérer dans le monde aujourd'hui, on peut dire que l'Europe est une sorte d'universalisme réduit. Il y a bien des questions qu'il faudrait traiter au niveau mondial, celle des GAFA, au niveau mondial celle du climat, mais il y a cette dialectique entre le mondial et l'européen. Je crois que l'Europe, à ce moment-là, doit être compris comme un universalisme en petit dans lequel peut-être on peut avancer et on doit avancer plus rapidement que dans l'universalisme en grand.
Merci beaucoup Pierre Rosanvallon. Vous restez avec nous en studio pour la suite des matins du samedi sur France Culture avec Caroline Brouet. 19,9 milliards d'euros, presque 20 milliards d'euros, c'est le montant incroyable que le géant du web, Google justement, aurait transféré des Pays-Bas vers les Bermudes, paradis fiscal, dans l'année 2017, en évitant ainsi des milliards d'euros d'impôts selon des documents cités par le quotidien financier néerlandais FD, document publié hier.
Le ministre de l'Intérieur a validé hier un plan pour tenter d'éviter les traversées de migrants entre la France et la Grande-Bretagne.
Christophe Castaner l'a officiellement adopté hier. Depuis deux mois, le nombre de tentatives de traversée de la Manche sur des embarcations de fortune pour rejoindre l'Angleterre a bondi. 57 tentatives recensées en novembre et décembre, 4 fois plus que sur les 10 premiers mois de 2018. Des traversées très dangereuses que les autorités veulent donc empêcher, Jérôme Jadot.
Pour la plupart, les mesures de ce plan ont déjà commencé à être mises en œuvre ces dernières semaines. Cela passe notamment par une surveillance en mer 24 heures sur 24. Mais les autorités veulent avant tout éviter les départs d'embarcations. Les patrouilles ont donc été renforcées à terre sur une cinquantaine de kilomètres de côte entre Boulogne-sur-Mer et Calais. Pour faciliter ces rondes, les gendarmes disposeront bientôt de motocross. Dans les jours qui viennent, ils seront aussi soutenus via les airs, annonce Fabien Sudry, préfet du Pas-de-Calais.
Nous allons pouvoir utiliser un drone avec une vision permettant une vision à distance et notamment nocturne qui nous permettra plus facilement de surveiller les mouvements. Notre objectif, c'est d'abord de sauver des vies, parce que ces traversées, elles sont quand même extrêmement dangereuses.
L'autre objectif, c'est de lutter contre les réseaux de passeurs. Pour ce faire, les migrants interceptés en mer sont systématiquement auditionnés. Et puis pour éviter les vols de bateaux, un renforcement de la sécurité des ports est également prévu.
Jérôme Jadot.
France Culture, 8 heures passées de 9 minutes, la suite du journal de Sophie Delpont. Où en est la transition démocratique en Tunisie? 5 ans après le lancement des travaux de l'instance chargée de mener cette mutation depuis la révolution de Jasmin, les résultats se font attendre.
Oui, l'instance chargée d'accompagner cette transition démocratique tunisienne, intitulée Instance Vérité et Dignité, devait remettre son rapport final aujourd'hui, 5 ans après son lancement. Eh bien, elle ne le fera pas, c'est ce qu'a révélé sa présidente Siem Ben Sedrine à notre correspondante à Tunis, Maureen Mercier. Très attendu, ce rapport devait être transmis au président de la République, au Premier ministre et au président de l'Assemblée avant d'être rendu public. Problème, deux des présidents n'ont pas daigné recevoir le rapport des mains de la responsable de l'instance.
C'est un très mauvais signal, bien que pas vraiment surprenant. Depuis qu'elle existe, le pouvoir s'applique à mettre des bâtons dans les roues de cette justice transitionnelle, censée révéler les horreurs du passé pour ne jamais les réitérer. Sihem Ben Sedrin, la présidente de l'instance Vérité et Dignité.
Ce qui me fait de la peine et qui me désole, c'est le comportement du chef de gouvernement par rapport à ce rapport de l'IVD qui doit lui être remis et jusqu'à nouvel ordre. Il n'a pas encore fixé de rendez-vous pour que je puisse le lui remettre. Moi, je demande un rendez-vous, il faut qu'il me l'accorde.
Non seulement le chef du gouvernement Youssef Chahed ignore l'IVD, mais il a entre-temps affirmé dans une interview télévisée que l'instance avait échoué. Ce rapport final de l'IVD, c'est une manière de passer le relais. Selon la loi, c'est à l'État désormais de poursuivre le travail, de s'assurer que les bourreaux seront jugés, les victimes dédommagées. Aujourd'hui, le succès de la justice transitionnelle dépend du courage des magistrats. Mais déjà, les menaces sont là. Fred Memiche, défenseur des droits de l'homme, est inquiet.
Ils doivent être protégés parce que leur situation est grave. Il y a des magistrats qui ont reçu des menaces, et des menaces sérieuses. Dans beaucoup d'autres pays qui ont engagé ce processus, il y a des magistrats qui ont été assassinés, il y a des témoins qui ont été assassinés. Le risque n'est pas loin.
La présidente de l'IVD, Sihem Ben Sedrin, se donne encore jusqu'au 25 janvier pour être reçue par le Premier ministre et le président de l'Assemblée. Si d'ici là, le pouvoir continue de l'ignorer, elle publiera le rapport pour que les Tunisiens y aient accès.
Maureen Mercier, la correspondante de France Culture à Tunis. Au total, l'instance Vérité et Dignité a recensé environ 25 000 violations graves sous le régime de Bourguiba et de Ben Ali. Des viols, des assassinats, de la torture. Objectif de cette justice transitionnelle est de faire la lumière sur ces violations des droits de l'homme commis au nom de l'État durant la dictature. Réhabiliter les victimes et proposer des réformes pour empêcher que cela se reproduise. Nous partons maintenant dans l'autre pays emblématique des printemps arabes, un pays qui a rêvé lui aussi de liberté et fait la révolution. C'est l'Égypte, et le président égyptien veut censurer la chaîne CBS. Abdel Fattah al-Sissi veut faire annuler une interview qu'il a accordée aux médias américains, estimant après l'enregistrement qu'il ne souhaitait plus diffuser ses propos. La direction du média a refusé et a indiqué que l'émission 60 minutes serait diffusée demain soir comme prévu à l'origine. La toile égyptienne s'est largement emparée de cette affaire et se demande quel est le contenu de cette interview que le gouvernement égyptien souhaite cacher au Caire. François Mferketadji.
La longue interview du président égyptien n'a pas encore été diffusée, mais en Égypte, elle fait déjà débat. CBS a publié sur son site une partie de son contenu.
Savez-vous précisément combien de prisonniers politiques vous détenez ?
Nous n'avons pas de prisonniers politiques ou de prisonniers d'opinion.
Monsieur le Président, l'organisation Human Rights Watch indique qu'au moment où nous parlons, vous détenez plus de 60 000 prisonniers politiques.
Je ne sais pas où ils ont trouvé ces chiffres. J'ai dit qu'il n'y avait pas de prisonniers politiques en Égypte. Quand il y a une minorité qui impose son idéologie extrémiste, nous devons intervenir. We have to intervene
regardless of their numbers. Le président égyptien répète ses mensonges depuis plusieurs années déjà, mais cette fois l'émission indique l'avoir confronté avec des victimes du régime, torturées en raison de leurs opinions ou de leur métier de journaliste. Mais ce que les autorités égyptiennes craignent le plus, c'est une gaffe du Raïs. Il affirme que l'Égypte coopère militairement avec Israël pour combattre le groupe État islamique dans le Nord Sinaï. Or, officiellement, la diplomatie égyptienne a toujours nié cette coopération. Même si l'Égypte a signé un traité de paix en 1979 avec Israël, l'opinion publique égyptienne est largement opposée à une normalisation des relations entre les deux pays.
François Mferketadji, le correspondant de France Culture en Égypte. Retour en France et le froid aussi qui s'installe et aggrave encore les conditions de vie déjà très difficiles des personnes sans abri. L'ancienne tour vacante des statisticiens de l'INSEE à Malakoff dans les Hauts-de-Seine reprend du service. Le bâtiment de 13 étages a été mis à disposition par le ministère des Finances dans le cadre du plan Grand Froid et depuis une semaine, depuis vendredi 28 décembre, l'association Alteralia accueille des SDF. Ils sont déjà 300 pour 340 places, Romain Sost.
Au rez-de-chaussée, on trouve l'accueil, le dortoir avec les hommes seuls sans abri. Et au premier et au deuxième étage, les familles, comme celle de Marcel et ses deux enfants, contentes d'avoir un toit.
Ils nous ont dit qu'ils venaient de s'installer, donc ils sont en plein réaménagement et tout. Mais dans l'ensemble, ça va.
Et accueillir autant de monde en si peu de temps, c'est une course contre la montre qui a débuté en novembre. C'est ce qu'explique Christophe Auger, le délégué général de l'association Alteralia.
On a essayé de répondre le plus vite possible à la demande de l'État pour pouvoir ouvrir en décembre, en tout cas avant le jour de l'an, 340 places. Aujourd'hui, on accueille quasiment 300 personnes, hein, enfants compris. On va dire que mi-janvier, tout sera totalement opérationnel.
En attendant mi-janvier, il faut s'adapter, comme la trentaine d'hommes seuls sans abri qui dorment dans une même pièce dans des lits de camp.
Les locaux sont chauffés, les gens peuvent prendre une douche avec de l'eau chaude, se laver, elles ont un lit avec une couverture à minima.
Et comme l'ancienne salle de réunion qui est devenue la cantine, d'autres pièces vont changer de rôle.
On va créer une nurserie pour qu'on puisse faire les toilettes, l'échange de couches, etc. dans des conditions un peu plus optimales.
Les anciens locaux de l'INSEE sont mis à disposition par l'État jusqu'en juin.
De la neige sur l'Alsace et la Lorraine, un soleil étincelant au bord de la Méditerranée, température comprise entre -3 et 11 degrés aujourd'hui.